France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Ici, c'est l'une des zones qui a été bombardée la première après le coup d'État, parce que c'est une place forte de la résistance aux militaires birmans. Maintenant, ils attaquent aussi la nuit. Ils ne font plus aucune distinction entre les civils et les soldats.
Ça fait 2 ans qu'on vit dans la jungle. Il faut toujours bouger. Parfois, on reste 2-3 jours à un endroit, puis on se fait repérer par un drone ou un informateur. Il faut aller plus loin.
Nous n'avons reçu aucune aide de la communauté internationale. Cela nous a fait réaliser que notre liberté, que notre révolution ne dépend que de nous.
Cela fait maintenant 2 ans que l'armée s'est arrogé les pleins pouvoirs en Birmanie. Ce coup d'État a stoppé net la marche du pays vers un système démocratique et renvoyé celle qui l'incarnait derrière les barreaux. Aung San Suu Kyi, âgée de 77 ans, a été condamnée en décembre dernier à 33 ans de prison pour corruption. La junte, qui semblait en quête de légitimité, promettait de nouvelles élections pour cet été, mais le mois dernier, elle a prolongé l'état d'urgence pour 6 mois supplémentaires et invoqué des raisons sécuritaires et logistiques pour repousser l'échéance. Les militaires reconnaissent qu'un tiers du pays n'est pas sous leur contrôle. Car la résistance armée à la junte s'organise de plus en plus, surtout dans les zones frontières avec l'Inde et avec la Thaïlande. Des groupes plus nombreux et mieux financés ont vu le jour, et les armées ethniques, alliées aux groupes de jeunes combattants des grandes villes, promettent d'intensifier les combats pour faire tomber les militaires. L'armée réplique par des frappes aériennes meurtrières, des bombardements qui terrorisent les populations civiles. Les villageois tentent de trouver refuge dans les forêts, où toute la vie se réorganise. Résistance au cœur de la jungle, c'est un reportage signé Carole Izou. Donc en reportage, nous accueillons aujourd'hui Bénédicte Braque de La Perrière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, chercheuse au Centre Asie du Sud-Est, au CNRS. Et bonjour Olivier Guillard.
Bonjour.
Directeur de l'information chez Crisis 24, vous êtes aussi chercheur Asie au CERIAS à l'Université du Québec à Montréal. Nous allons partir ensemble dans la jungle birmane grâce au reportage de Carole Izou. Bonjour Carole.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bangkok. Alors, vous aviez déjà passé la frontière l'an dernier pour aller en Birmanie. Est-ce que la situation a beaucoup évolué depuis ?
Alors beaucoup, c'est-à-dire que c'est une zone de toute façon qui est très peu développée et ça n'a pas changé. Bien sûr, il y avait déjà plus d'électricité l'année dernière, donc c'était déjà des conditions difficiles. Maintenant, c'est vrai que la grande différence, eh bien, c'est un an qui a passé avec, pour la population, un an de plus dans la forêt, un an de plus de privation, un an de plus sans savoir de quoi demain sera fait. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment quand même grandissant d'incertitude, voire de désespoir chez ces populations. Ça, c'est pour la population civile. Et pour ce qui est de la résistance armée, alors là, par rapport au début où on avait de jeunes étudiants un peu perdus, qui ne savaient pas trop finalement comment ils étaient arrivés là, au milieu de la jungle, depuis leur grande ville, eh bien, c'est vrai que maintenant, on a une résistance beaucoup mieux armée, mieux financée, et des jeunes gens qui, même s'ils ne se destinaient pas du tout à une carrière militaire à l'origine, aujourd'hui ont quand même 2 ans d'entraînement dans les jambes. Et ça change beaucoup sur la professionnalisation de la résistance.
Nous partons donc pour l'est de la Birmanie, dans les territoires de l'armée ethnique Karen.
Ils ont tout bombardé. Tout détruit, regardez, nos églises, la nouvelle école qu'on venait de construire.
Alors là, nous sommes au village de Lewa, dans le nord du territoire Karen. Les habitants nous informent que les frappes aériennes ici sont quasi quotidiennes. Et on constate plusieurs cratères au milieu du village avec des carcasses d'animaux, de buffles notamment. Parce que plusieurs avions ont largué il y a quelques semaines une dizaine de bombes qui ont tué 5 personnes dans le village.
Dans cette maison, il y avait une jeune mère et un petit de 2 ans. Le petit jouait là, dehors, quand on a entendu les avions arriver. La mère a couru pour le protéger. La bombe les a tués tous les deux.
En Birmanie, dans les zones noires du conflit, les troupes de la junte, qui ne s'aventurent plus à pied,
préfère envoyer des avions de plus en plus sophistiqués pour bombarder les villages soupçonnés de collaborer avec les armées ethniques ou les groupes de jeunes résistants. Sur des kilomètres, dans une zone frontalière de la Thaïlande, les villages sont déserts, souvent en ruines. Alors qu'il nous fait constater les dégâts, notre guide, Sailo, un jeune soldat de l'armée Karen, s'immobilise, un doigt pointé vers le ciel.
Vous entendez là ? Un moteur. Les avions arrivent. Courez ! Courez !
Alors que le petit groupe s'est mis à l'abri en contrebas du village, des informateurs annoncent par radio que l'avion se dirige finalement vers la montagne voisine, au grand soulagement du jeune Sailo. Les alertes de ce genre sont quotidiennes ici. Pour se protéger, les habitants ont mis en place un système de surveillance radiophonique qui continue à fonctionner même sans électricité et sans réseau Internet, coupé depuis 2 ans.
On a distribué des radios aux villageois, surtout ceux qui sont sur les hauteurs qui peuvent voir arriver les avions de loin. Comme ça, ils nous préviennent pour qu'on se mette à l'abri.
Pour échapper aux frappes, dans ces régions, 90% de la population, selon des ONG locales, vit désormais cachée dans la forêt. Les villages sont laissés quasi à l'abandon, tandis que les habitants ont recréé de petites communautés qui s'organisent dans la jungle. Chaque village abandonné a en fait une sorte de village miroir installé à une vingtaine de minutes de marche à l'intérieur de la jungle pour se dissimuler et se protéger des bombardements et des drones que l'armée birmane envoie régulièrement en reconnaissance avant les frappes. Certains de ces déplacés de l'intérieur passent tout leur temps dans la forêt. D'autres font encore des allers-retours avec les zones construites pendant la journée pour s'occuper des jardins et des maisons et reviennent dormir en forêt le soir. C'est le cas du général Pado Sokledo, un ancien militaire de l'armée Karen à la retraite. À 73 ans, il est le chef d'une de ces nouvelles communautés de la forêt.
Ici, c'est l'une des zones qui a été bombardée la première après le coup d'État. Parce que, historiquement, c'est une place forte de la résistance aux militaires birmans. Maintenant, les frappes aériennes sont devenues quotidiennes, avec du matériel de plus en plus sophistiqué et précis. Maintenant, ils attaquent aussi la nuit, sur n'importe quelle maison, n'importe quel bâtiment. Ils ne font plus aucune distinction entre les civils et les soldats. Voilà pourquoi on est obligé de vivre dans la forêt, comme nos ancêtres. On est protégé par la nature. Et puis on a aussi creusé des abris dans la terre au cas où on se ferait bombarder encore. La journée, ceux qui ont la force de faire des allers-retours, les jeunes surtout, viennent au village pour se laver parce que c'est plus pratique que dans les rivières. Et pour nourrir les animaux, arroser les plantes. Mais les anciens restent dans la forêt. Ça fait 2 ans qu'on vit comme ça. Jusqu'ici, certains étaient restés dans leur maison, mais cette année, il y a eu trop de bombes et des drones, pratiquement tous les jours. Alors il a fallu se résigner. Tout le monde est parti, il ne reste plus personne dans les villages. Ça ne m'amuse pas de quitter ma maison tous les soirs pour aller dormir dehors dans la forêt. On est fatigué de faire ça. Surtout les vieux, comme moi, et les familles avec enfants. Mais on n'a pas le choix. Ils veulent, coûte que coûte, contrôler la zone. Alors ils attaquent sans relâche n'importe qui, parfois avec des tirs de mortier. On n'a pas le choix si on veut rester en vie.
Le général fait partie des plus courageux, qui osent encore s'aventurer au village pour tenter notamment parfois de profiter de quelques instants d'un réseau Internet qui apparaît, ce qui lui permet de lire les nouvelles du monde, son passe-temps favori, sur la guerre en Ukraine notamment, qu'il suit de près, comme beaucoup de combattants Karen. Tous les soirs, vers 17h, le rituel est le même. Il se lève de son siège, ferme les deux battants de sa lourde porte en bois, prévient par radio ceux qui sont restés au camp qu'ils se mettent en route et enfourche sa petite mobylette jusqu'à un campement de forêt où l'attendent quelques proches, dont Chima, une femme d'une quarantaine d'années, réfugiée ici, qui cuisine pour lui chaque soir et s'occupe des tâches ménagères.
Ici, on fait à manger au feu de bois. Là, c'est pour faire la vaisselle, le linge. Là, on a creusé un abri et puis on dort là.
Ici, les habitants dorment à deux ou trois familles sur des planches faites de bambou au-dessus desquelles sont étendues des bâches en plastique. Les écoliers répètent leurs leçons d'anglais, éclairés par des bougies, au fond d'un bunker. Au milieu de tous, le général Sakledo est un peu solitaire. Sa femme, qu'il avait épousée dans son adolescence, est décédée l'année dernière du Covid, sans accès à des soins médicaux, comme beaucoup ici. Ses enfants, comme la plupart des jeunes Karen qui en ont les moyens, sont partis en Thaïlande où ils ont pu étudier et travailler. Restent autour de lui quelques villageois, comme Chima, qui lui sert de cuisinière. Elle est en fait professeure de langue et de culture birmane dans l'enseignement secondaire. Elle a fui, elle aussi, les bombardements de sa maison dans une autre région de Birmanie et la répression de la junte contre les fonctionnaires grévistes pour venir se réfugier ici, dans la jungle Karen, avec son mari et son fils de 12 ans.
Je suis professeur, donc fonctionnaire, dans un lycée. Quand l'armée est arrivée au pouvoir, je ne voulais plus représenter l'État. Je ne pouvais pas accepter. Donc, le lendemain du coup d'État, je ne me suis pas présentée au travail. Pour échapper aux vagues d'arrestations, je me suis enfuie une première fois. Mais les soldats m'ont arrêtée sur la route et m'ont renvoyée de force au travail. Je n'ai pas eu le choix. Alors, je me suis mieux préparée et je me suis échappée une seconde fois. Cette fois, j'ai dû aller beaucoup plus loin. J'avais entendu dire que l'armée Karen prenait des grévistes sous sa protection. Donc je me suis présentée ici, où je me sens plus en sécurité. Les locaux Karen accueillent très bien les autres ethnies du pays. Je suis très reconnaissante aux gens qui nous abritent ici. J'ai même trouvé un travail de professeur de birman dans une école pas très loin. Au moins, ici, mon fils peut continuer à aller à l'école et avoir une éducation. Et moi, c'est comme si j'avais retrouvé une famille, des parents. Pendant mon absence, les soldats se sont présentés chez moi plusieurs fois pour m'arrêter. Ils ont terrorisé ma mère, qui était cardiaque. Elle est morte. Je n'ai pas pu aller à son enterrement.
Chima fait donc partie du CDM, le mouvement de désobéissance civile, une gigantesque grève des fonctionnaires dans tous les secteurs, professions médicales, urbanisme, personnel enseignant, qui vise, en paralysant le pays, à faire tomber l'administration militaire. Au bout de 2 ans de grève, beaucoup de grévistes ont dû reprendre le chemin du travail, faute de moyens suffisants pour survivre. Le gouvernement n'est pas tombé, mais le pays ne fonctionne qu'au ralenti. Si on s'enfonce un peu plus profondément dans la forêt, on trouve partout des familles éparpillées, certaines qui viennent de loin, d'autres des villages aux alentours. À une vingtaine de minutes de marche du camp du général, on rencontre No Charupo. Elle a une quarantaine d'années, elle tenait l'épicerie du village.
Ça fait 2 ans qu'on vit dans la jungle. Depuis mars 2021, les premiers bombardements, des dizaines de gens sont morts. Parfois, on ne les retrouve même pas parce que ça se passe dans la forêt. Alors, les animaux les mangent. Il faut toujours bouger. Parfois, on reste 2-3 jours à un endroit, parfois 1 mois. Puis, on se fait repérer par un drone ou un informateur. Il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'on interdit les lampes de poche dans le camp. À partir de 19h, c'est le noir total. On peut seulement utiliser les bougies. À chaque fois qu'on déménage, il faut reprendre toutes ses affaires. replier les bâches, repiquer les piliers de bambou. On est épuisé. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de toilettes. Il y a des familles dans toute la forêt. Combien de temps encore on va devoir vivre comme ça? On est trop fatigué.
La guerre ne fait aucune différence entre les riches et les pauvres. Si elle vit aujourd'hui sous une bâche en plastique avec deux autres familles, Charupo était auparavant l'une des femmes les plus en vue du village. Elle tenait une épicerie prospère, célèbre à des kilomètres à la ronde. Et quand elle repense à cette vie d'avant, elle s'effondre, malgré les mots réconfortants de son voisin.
Ils m'ont tout pris, deux fois. J'ai démarré avec un petit commerce dans une maison, là-bas, au bord de la route. Ils l'ont brûlé. Ça fait plus de 15 ans déjà. Après ça, j'ai tout recommencé, tout reconstruit. J'ai eu mon épicerie, j'étais quelqu'un dans le village, vous savez. Et maintenant, regardez-nous, obligés de dormir dans la forêt, comme des animaux. Et nous, on n'a rien à voir avec tout ça. On n'est pas des soldats, on ne fait pas de politique. On est des commerçants, de simples villageois. Ça ne s'arrête jamais, cette guerre ne s'arrêtera jamais.
Pour les Karen et d'autres minorités ethniques de Birmanie, le coup d'État du 1er février 2021 n'a fait que raviver un conflit long de plus de 70 ans. Alors qu'il s'était vu promettre un droit à l'autonomie lors des luttes d'indépendance contre l'Empire britannique à la fin des années 40 par le général Aung San, le père de l'ancienne chef d'État Aung San Suu Kyi, considéré plus largement comme le père de la nation birmane moderne, les leaders Karen ont vite été déçus. Mal considéré, maltraité par la majorité ethnique Bamar qui détient tout le pouvoir à Rangoon, ils ont vite repris les armes, avec des trêves régulières comme celle qui avait eu lieu au début du mandat d'Aung San Suu Kyi. Mais ces 70 ans de conflit ont laissé de profondes séquelles. D'abord un développement ralenti par rapport au reste du pays et surtout une normalisation du conflit sur le temps long qui a pour conséquence une imbrication totale des populations civiles et militaires. Dans la zone, chaque famille compte un ou plusieurs soldats ou une fille, une tante, mariée à un soldat. L'Armée nationale de libération Karen, la KNLA, contrôle tout aller et venu grâce à un maillage de points de contrôle qui jalonne les quelques routes creusées à flanc de montagne. Pour cette raison, presque aucune aide humanitaire ne parvient aux populations en détresse. Les statuts des ONG internationales leur interdisent d'aider les groupes armés et la distinction avec la population civile est quasi impossible ici. À Menuta, l'une des portes d'entrée de la Birmanie sur la rivière Salween, les bateaux arrivent deux fois par semaine, chargés de sacs de riz, de volailles et d'eau potable en provenance de la Thaïlande voisine. Quelques groupes humanitaires religieux parviennent à faire circuler quelques vivres vers l'intérieur des terres, mais la majorité des livraisons est à destination des soldats. Là, au bord de la rivière, on retrouve Charupo, l'épicière. Elle connaît bien l'endroit. C'est là qu'elle venait s'approvisionner du temps où son magasin était encore ouvert. Aujourd'hui, elle est venue accueillir son beau-frère qui arrive d'un camp de réfugiés voisins sur la rivière.
Ici, les gens viennent s'ils ont besoin de quelque chose. Il y a un petit magasin le long de la rivière qui reçoit des choses de Thaïlande, de l'autre côté de la rivière. C'est encore l'un des rares endroits où on peut trouver quelque chose. Des produits de base, hein, de la lessive, du dentifrice, un peu de textile. Et de la nourriture, bien sûr, du riz. Parce qu'à l'intérieur, chez nous, en terre Karen, comme il y a des bombardements tout le temps, les agriculteurs ne peuvent plus travailler depuis 2 ans. Les récoltes sont bombardées, ils ont peur de passer du temps dans les champs, dans des espaces découverts. Comme ça fait deux ans, il n'y a plus grand-chose à manger là-bas. On se nourrit des produits de la forêt. On ne peut pas se rendre dans les villes birmanes, qui ont encore un peu à manger, c'est trop dangereux. Les produits en provenance de Thaïlande, leurs prix ont explosé. Presque plus personne ne peut se les offrir. Pourtant, ils trouvent toujours preneur, parce qu'on n'a plus rien à l'intérieur.
Cette absence d'aide internationale indigne le général Sakledo, qui compare la Birmanie à d'autres conflits.
Les organisations internationales, y compris l'ONU, se calquent sur les intérêts américains. Ils se cachent derrière le fait qu'ils ne peuvent pas aider des groupes armés, qu'ils ne peuvent pas être officiellement des soutiens à notre révolution, au nom de la non-ingérence. Mais pourtant, quand il s'agit d'autres pays, qui sont considérés comme des ennemis ou des rivaux sérieux de l'Occident, comme la Chine ou la Russie, là, le soutien à la lutte armée n'est pas un problème. L'Ukraine reçoit des armes. Il y a ici un régime sanguinaire qui a pris le pouvoir par coup d'État, juste après des élections démocratiques où le peuple s'était exprimé. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour apporter une aide? Alors bien sûr, nous ne sommes ni la Russie ni la Chine. Nous sommes trop petits pour intéresser les grands pays. Mais qu'on cesse de nous servir des arguments hypocrites.
Malgré tout, c'est vrai que l'armée Karen a renforcé son contrôle sur la zone depuis deux ans. Les chefs militaires s'appuient aussi sur l'identité chrétienne de nombreux villageois, protestants et catholiques, évangélisés par les Européens et les Américains dès le 19e siècle. Dans son campement, avant de dormir, le général anime la prière du soir. Les villageois se rassemblent et chantent des psaumes, parfois accompagnés à la guitare. Cette union de la religion chrétienne et de l'armée karen dans un pays à forte majorité bouddhiste légitime l'idée de la nécessité d'institutions propres, voire d'un État indépendant. Ces revendications d'autonomie se trouvent aujourd'hui encore renforcées par le conflit, puisque l'armée karen est l'une des pièces maîtresses de la résistance par les armes, non seulement grâce à ses propres effectifs, mais elle a aussi pris sous son aile des groupes de jeunes combattants venus de Rangoon et des grandes villes du pays, les PDF, Forces de Défense du Peuple. Ceux-là sont plutôt tenus au secret, loin du regard curieux des journalistes. On rencontre par hasard une trentaine de ces combattants au bord d'une rivière.
Donc là, on vient de rencontrer un peu par hasard, parce que c'est assez difficile d'obtenir des permissions, un groupe de combattants PDF, donc des Forces de Défense du Peuple. Ils sont en train de descendre de l'arrière d'une camionnette où est inscrit le mot « Révolution ». Ils sont très jeunes, à peu près 25 ans en moyenne. Ils portent les insignes des groupes PDF, un drapeau rouge avec une étoile jaune. Ils sont lourdement armés. On va essayer d'aller leur parler. Hello, Mingalaba. Est-ce que je peux vous demander votre âge?
21 ans.
Oui, il avait 19 ans quand il est arrivé dans la jungle. C'était un adolescent encore.
Et vous venez de quelle ville?
Rangoon.
Est-ce que vous aviez commencé les études déjà?
Oui, j'étais étudiant de première année à Rangoon, à l'université de Rangoon Est, et j'étudiais la géologie.
Si les autorités karen restreignent l'accès à ces groupes de combattants, c'est parce que certains d'entre eux fonctionnent désormais comme des commandos d'élite réservés aux opérations dites « sensibles ». Contrairement aux difficultés du début du mouvement, ils ont l'air surentraînés et surtout mieux financés. Ces jeunes hommes sont équipés de fusils d'assaut, de couteaux de combat, de gilets pare-balles, de bottes. Ils portent désormais un uniforme et des insignes bien reconnaissables. En fait, ils sont bien mieux armés que les soldats karen, sous le commandement desquels ils sont pourtant censés se tenir. Mais des financements spéciaux venus directement du gouvernement civil birman en exil, le NUG, leur permet d'avoir une position à part. Le jeune Kyoé porte le titre de chef d'escouade.
Au début, j'avais rejoint une brigade Karen où j'avais des amis. Mais au mois de décembre 2021, les avions de la junte ont bombardé la base. On n'avait rien pour se battre, pas de matériel, à peine de quoi manger. Ce jour-là, on a dû fuir et j'ai failli abandonner, comme beaucoup. Mais je suis revenu. On s'est regroupé et on a décidé de changer de tactique. D'abord, on a gardé que ceux qui étaient vraiment aptes au combat. On s'est beaucoup entraîné, mais surtout, on a décidé que, dorénavant, on allait être des unités mobiles, toujours en mouvement. Maintenant, on ne reste que quelques jours à un endroit, et puis on bouge à nouveau, d'une basse carène à l'autre. Parfois, on s'arrête dans les villages. Les habitants sont très gentils avec nous, ils nous donnent à manger. On se spécialise, en somme, dans les opérations spéciales, les embuscades sur des cibles à haute valeur ajoutée. Je ne peux pas vous dire exactement quoi, mais disons des réserves d'armes, par exemple, pour affaiblir l'armée birmane, les prendre par surprise. Les PDF, les forces de défense du peuple, sont devenues un bataillon à part, comme des forces spéciales.
Certains d'entre eux font des allers-retours avec les grandes villes du pays pour ces fameuses opérations spéciales. Kyoé ne donnera pas de détails, mais ces derniers mois, les attaques à l'explosif contre les commissariats des grandes villes et les domiciles des représentants de la junte se sont multipliées. Chaque semaine, les armées ethniques revendiquent la mort de dizaines de soldats birmans dans des embuscades, sans que ces chiffres puissent être vérifiés. L'objectif immédiat de la lutte armée cette année, c'est d'empêcher la tenue des élections annoncées par la junte pour le mois d'août prochain.
La seule porte de sortie pour la junte, c'est d'organiser ces élections pour légitimer leur pouvoir, car ils sont maintenant dans une impasse, surtout vis-à-vis de la communauté internationale. Donc, ils vont tout faire pour essayer de les organiser et s'installer durablement au pouvoir. Mais nous ne laisserons pas cela arriver. Sur le terrain, il n'y aura pas d'élection, je peux vous le garantir. Tous les soldats de la résistance seront mobilisés pour les empêcher. On contrôle déjà une bonne partie du territoire. Ces élections, elles ne pourront avoir lieu qu'en ligne et elles n'auront aucune valeur. On se battra jusqu'au bout.
Lors d'une conférence de presse il y a quelques semaines, le général Min Aung Hlaing, chef de la junte, a admis qu'au moins un tiers des circonscriptions du pays étaient sous le contrôle des groupes combattants et que les élections seraient très probablement repoussées à une date ultérieure. Mais tout à coup, Kyoé doit abréger la conversation. Vous devez partir ?
Oui, je dois aller assister notre ministre de la Défense. Je suis son aide de camp.
Les forces PDF servent aussi en effet de garde rapprochée aux membres du NUG, le gouvernement birman en exil, lorsqu'ils se rendent, comme aujourd'hui, dans les territoires ethniques pour négocier avec les chefs militaires, en échange de leur soutien armé présent, les modalités de la Birmanie de demain, celle d'après le régime militaire, cette fameuse Birmanie fédérale dont tout le monde parle tant, qui respecterait les droits de toutes les minorités. Mais c'est un rêve encore lointain. En attendant, la multiplication des groupes et groupuscules armés fait craindre une situation de plus en plus volatile. Mais selon le commandement de l'armée Karen, toutes les factions travaillent ensemble dans un même but. C'est en tout cas ce qu'affirme le général Moutet, responsable de plusieurs groupes armés, en plus des bataillons Karen.
Les PDF et les différents groupes armés travaillent sous notre commandement, tous dans un même but, faire tomber le gouvernement militaire. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra construire la Birmanie de demain, une Birmanie fédérale avec les mêmes droits pour les Karen et pour tous.
C'est un vieux rêve en Birmanie, où les minorités exigent plus de représentation au Parlement et le contrôle sur leurs ressources naturelles depuis des décennies. Déjà lors du coup d'État de 1988, les minorités ethniques avaient cru pouvoir obtenir plus d'autonomie. Mais selon les anciens, les vieux réflexes de domination de l'ethnie majoritaire Bamar avaient vite eu raison de ces revendications. Cette fois, pourtant, avec l'avènement d'Internet et de la génération Z, le général Sokledo estime que l'espoir est permis.
La grande différence avec le coup d'État précédent, c'est que les Bamars, les représentants de l'ethnie majoritaire, sont avec nous. Cette administration militaire a volé au peuple birman dans son ensemble les résultats d'une élection démocratique. Et ça, les Bamars ne l'acceptent pas. En 2020, nous avons eu des élections, tout ce qu'il y a de plus valable et légal, conformément à la Constitution. Contrairement au coup d'État de 1988, les Bamars ont accès à Internet et la propagande du gouvernement militaire qui dépeint les minorités ethniques comme des terroristes sanguinaires ne passe plus. Les militaires disent qu'ils veulent à nouveau des élections, mais pourquoi faire? Le peuple s'est déjà clairement exprimé. Ça prendra le temps qu'il faudra. La révolution vaincra, peut-être cette année ou l'année prochaine ou dans plus longtemps, mais nous n'abandonnerons jamais. Nous nous battrons tous ensemble pour le rétablissement d'un système démocratique en Birmanie.
Malgré les promesses de certains chefs militaires que cette année sera la dernière du conflit, la population s'apprête à vivre un nouvel épisode de dictature au long cours dans l'histoire du pays. Alors il faut bien s'organiser, même si dans les zones noires du conflit comme ici, la vie semble quasiment à l'arrêt. L'éducation, la santé sont des biens rares. Pourtant, certaines écoles, délocalisées dans la jungle, continuent à enseigner aux enfants. Il faut toute la détermination de professeurs courageux et un peu fous pour continuer à faire fonctionner ces écoles de forêt. C'est le cas de Saïkou, directrice d'une école qui va de la maternelle jusqu'à la troisième, délocalisée au cœur de la jungle. Pour la plupart des enfants et des professeurs, la journée démarre dès le lever du soleil par une longue marche à travers une forêt de bambous.
On a peur des frappes aériennes des soldats birmans, qu'ils bombardent notre école. Alors on fait école dans la forêt.
Puis on arrive à une clairière aménagée où se trouvent des bancs et des tables faits à l'aide de quelques planches attachées ensemble par des lianes, fabriquées par les parents d'élèves. Saïkou, la directrice, nous fait visiter les lieux.
Ici, ce sont les CM1. Il y a deux classes, une trentaine d'enfants, des garçons et des filles. Ils ont démarré un peu tard ce matin. C'est difficile de réunir tout le monde à l'heure. Plus loin, de l'autre côté, on a mis les tout-petits, les maternelles, un peu à l'écart, pour qu'ils puissent dormir en fin de matinée. Ici, ce sont les CE2, je crois qu'il y a une vingtaine d'élèves. En tout, il y a 170 élèves qui continuent à venir tous les jours pour étudier dans la forêt. Ici, ce sont les CM2. Chut, ils sont en examen. Et on a même des sixièmes, là-bas au fond, derrière les bambous. Et voici nos professeurs. Elle enseigne la langue et la culture karen. Elle, les sciences et la géographie, on considère que ça va ensemble. Et lui, c'est notre professeur de mathématiques.
Ici, à la place de la salle des profs, une rangée de hamacs étendue entre les arbres.
On installe nos hamacs chaque matin. Vu qu'on n'a plus de bâtiment, il n'y a plus nulle part pour les professeurs pour prendre une pause. Donc on amène nos hamacs pour se reposer un peu de temps en temps.
Un peu plus loin, les tout-petits, de 3 à 5 ans, apprennent déjà des rudiments d'anglais. Malgré la situation, Saïkou essaye de maintenir des standards éducatifs. Aujourd'hui, sous les arbres, tous les élèves doivent passer un examen de sciences et un autre de langue birmane, une matière qui est souvent considérée comme la langue de l'oppresseur par les villageois karen qui parlent leur propre dialecte et n'est pas enseignée dans toutes les écoles de la région. Bien parler birman est pourtant une condition essentielle pour les futures perspectives professionnelles de ces enfants dans la Birmanie de demain. Et Saïkou veut leur donner les meilleures chances.
Je tiens absolument à ce qu'ils passent leurs examens. Ça leur donne un sentiment de normalité. Et surtout, je ne veux pas qu'ils soient une génération perdue, sans éducation. Mais comme les bombardements de l'armée n'arrêtaient pas de se rapprocher, et qu'ils visent en particulier les bâtiments collectifs, y compris les écoles, parce qu'elles peuvent servir à abriter des combattants, on a dû se délocaliser pour qu'il y ait moins de stress.
Pour les élèves, comme ce jeune homme en classe de 3e, il faut bien viser les horaires de révision.
Il y a pas mal de devoirs à faire. Comme on n'a pas d'électricité, il faut utiliser des bougies le soir au campement. Mais ça ne dure pas longtemps. Le mieux pour les examens, c'est de se lever très tôt, vers 6 heures, pour réviser à la lumière du soleil.
La principale inquiétude de leur directrice, c'est de ne pas être en mesure d'offrir une éducation aux plus grands après la 3e. Pour les adolescents qui veulent tenter leur chance, pas d'autre choix que de passer seuls la frontière avec la Thaïlande, direction les camps de réfugiés ou les écoles pour enfants migrants, où des ONG internationales peuvent offrir une éducation aux plus brillants d'entre eux. Les jeunes les plus débrouillards ou qui veulent commencer à travailler peuvent aussi rejoindre les centaines de milliers de Birmans clandestins qui ont émigré le long de la frontière thaïlandaise. Activistes, médecins, avocats, journalistes, cette classe moyenne immigrée des grandes villes birmanes donne une nouvelle physionomie aux bourgades tranquilles de la frontière thaï en recréant des mini-rangoons, ça et là. Des cafés, des galeries d'art voient le jour, comme celle de Kotet, un célèbre activiste qui a fui le régime. Dans ces lieux communautaires, il s'agit de se rassembler autour de plats traditionnels birmans, d'évoquer le mal du pays, mais aussi d'offrir des perspectives d'emploi pour ces professions au chômage.
Nous sommes au café Lulei, c'est-à-dire le café de la liberté, le café de l'indépendance. Après le coup d'État, des milliers d'activistes se sont enfuis vers la Thaïlande. J'ai ouvert ce café parce que je voulais apporter une réponse aux nouveaux problèmes qui se posent aux activistes birmans. Depuis qu'ils ont émigré en masse vers la Thaïlande, ils doivent faire face au chômage, à l'insécurité, dû au fait qu'ils n'ont pas de papiers en règle. Je voulais donner une opportunité à certains de ces activistes de retrouver un emploi. Vous voyez par exemple la caissière là-bas, en t-shirt noir, elle était directrice d'école à Rangoon. Donc elle était fonctionnaire. Elle a rejoint le mouvement de désobéissance civile et elle s'est enfuie. Elle est arrivée ici dans une des maisons refuges de notre réseau et elle a rencontré ce garçon là-bas qui prépare le thé. Bon, il ne faisait pas encore de thé, il était réfugié comme elle. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. En fait, lui était un leader dans les manifestations étudiantes au début du mouvement anti-junte. Il était aussi ingénieur en génie civil et maintenant son travail c'est de faire du thé avec sa femme et ses amis en Thaïlande.
Deux ans après le coup, émigrés sans papier en Thaïlande, les Birmans, qu'ils soient issus ou non des mouvements de résistance à la junte, se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable. Comme nous l'explique cette cliente du café, impliquée dans la défense des communautés birmanes.
Je dirais que le problème numéro un, c'est l'insécurité. Tout Birman qui vient se réfugier ici en Thaïlande, à la frontière, sans papier, comme la majorité d'entre eux, ne peut pas du tout se sentir en sécurité, ni la nuit, ni le jour. À tout moment, vous pouvez être arrêté par la police. Il y a beaucoup de patrouilles policières près de la frontière. Si les policiers vous arrêtent, ils vont vous extorquer énormément d'argent, ou pire, ils peuvent vous déporter. Si vous êtes déporté en Birmanie, vous serez jugé, vous serez immédiatement envoyé en prison, ou alors vous disparaîtrez, on ne sait pas. Ça se passe en Thaïlande aussi. Il y a énormément de cas d'exploitation ouvrière, de trafic d'êtres humains, d'esclavage moderne, de disparition forcée, de violences sexuelles. Mais on ne peut pas aller voir la police. On n'a pas de papier. Et de toute façon, on n'a nulle part où aller. On n'a pas le droit de circuler. Même ceux qui sont censés être dans ce qu'on appelle des abris ne sont pas du tout en sécurité.
À terme, le but du café est aussi de récolter des fonds pour la résistance armée, car les Birmans l'ont bien compris, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes.
Nous n'avons reçu aucune aide de la communauté internationale. Aucune mesure n'a été prise. Personne ne nous a aidés. Pourtant, nous en attendions beaucoup, surtout des Nations Unies. Donc, nous avons été très, disons, très déçus, surtout les jeunes. Cela nous a fait réaliser que notre liberté, que notre révolution ne dépend que de nous. Nous devons trouver des moyens de nous entraider entre Birmans. Nous n'attendons plus rien de la communauté internationale.
L'endroit sert aussi discrètement de base arrière à certains combattants entre deux périodes de mobilisation. Au fond de la salle, un groupe de jeunes qui attend de repartir au front. Même si certains promettent que cette année sera la dernière du conflit, beaucoup se préparent désormais à de longues années de combat et d'exil.
Birmanie, résistance au cœur de la jungle, un reportage de Carole Izou avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le géopolitologue Olivier Guillard et l'ethnologue Bénédicte Braque de la Perrière sont les invités de ce grand reportage. Alors on vient d'avoir un aperçu des conditions de vie très difficiles des villageois réfugiés dans la jungle, comme de ces groupes armés qui se battent contre le régime. Et puis on voit que ce conflit s'inscrit maintenant dans la durée. Pour autant, Bénédicte Braque de la Perrière, ils ne sont manifestement pas résignés.
Non, ils ne sont pas résignés, c'est ce qu'on sent. Enfin, je suis allée en Birmanie à l'intérieur, alors l'autre côté, en août dernier, c'est manifeste, ils veulent gagner, l'objectif c'est la victoire, c'est-à-dire la démission du gouvernement militaire.
Alors dans quelle zone vous étiez-vous ?
À Rangoon.
Et là, donc, qui est censé être sous le contrôle de l'armée, vous avez aussi beaucoup de témoignages de résistance.
Des témoignages de résistance, je ne les cherche pas parce que c'est très dangereux pour eux. Et pour moi, mais accessoirement, c'est vraiment pour eux que c'est dangereux. J'ai des informateurs de longue date, des contacts, et une expérience de Rangoon qui me permet de dire ça d'une manière assez sûre.
Et alors, on a entendu dans le reportage qu'il y avait beaucoup de jeunes combattants. Est-ce qu'on sait qu'ils ont justement le soutien d'une bonne part de la jeunesse birmane ?
Oui, c'est la jeunesse birmane qui s'est mobilisée dans les manifestations qui ont suivi, immédiatement suivi le coup d'État. Et qui, parce qu'ils étaient donc activistes et qu'ils s'étaient mobilisés, ont dû faire le choix lorsque la répression est devenue trop violente, trop brutale, de partir. Soit donc vers ces zones où ils sont formés militairement par les vieilles rébellions ethniques, comme cette rébellion Karen qui a 70 ans, hein, donc c'est des zones qui sont en guerre depuis toujours, ou alors ils sont partis de l'autre côté de la frontière, organiser donc une résistance du côté Thaï, et on a la même chose du côté indien. À partir de l'État de Chine, on a moins de documents sur cette rébellion là, mais elle est aussi très active. Et là, les gens ont plutôt, et les gens du Segain, enfin ce qu'on appelle le Segain et le Mandalay, qui sont les divisions du centre de la Birmanie, les divisions géographiques, donc sont les divisions aussi les plus rebelles contre le gouvernement militaire et l'État Chine qui fait la liaison entre ces zones-là et l'Inde du Nord est une zone aussi extrêmement troublée, et de ce côté-là, eh bien, ils vont du côté indien.
Alors Olivier Guillard, on a entendu que les attaques étaient désormais mieux coordonnées, plus sophistiquées. Il semble que les jeunes qui se battent contre le régime ont aujourd'hui acquis des techniques, un armement moderne. Comment se financent les opposants au régime ?
Alors c'est une excellente question. Peut-être un petit mot pour noter le travail remarquable de votre collègue sur le terrain. Ce reportage est juste extrêmement éclairant pour celles et ceux qui s'intéressent aux questions birmanes. Alors comment se finance, enfin comment se fonctionnent au quotidien ces rébellions que l'on appelle les PDF, les forces de défense populaire, qui ont réussi à donc, en l'espace de 18 mois, 18 à 24 mois, elles se sont installées elles se sont ventilées sur la totalité du territoire. Il n'est pas un district, pas un comté, pas une région qui en ait un ou plusieurs, travaillant souvent main dans la main avec ce que ma collègue appelait les vieilles rébellions ethniques. Donc il y a du partage de savoir-faire, de moyens, de techniques. Il y a de la jeunesse, il y a une façon également de voir les choses entre vieux rebelles, si l'on peut dire, ou vieux rebelles de l'ancienne génération et la jeunesse qui se mobilise contre la junte. Eh bien, donc, tout ce petit monde-là a réussi à cohabiter pour le mieux donc, des espoirs démocratiques birmans d'aujourd'hui et de demain, avec un certain succès, un succès que ne dément d'ailleurs du reste pas, et le reconnaît avec beaucoup de gravité la junte, qui ne s'attendait pas à être contestée par ceux-là même qui, hier, donc, ployaient sous sa botte. Et aujourd'hui, nous avons donc, au même titre que l'armée renforce ses effectifs dans certaines divisions, dans certains états du pays, les forces populaires, ce qu'on peut les appeler les milices populaires locales, civiles, et aujourd'hui relativement professionnalisées, elles aussi, elles se déplacent, elles réussissent à coordonner des attaques, elles représentent un danger qui finit par faire peser une certaine crainte sur les généraux qui, lorsqu'ils perdent, généraux birmans, pardon, ou les commandants de garnison locale, lorsqu'ils perdent un poste, ils perdent du matériel. Ce matériel est récupéré immédiatement par ces PDF ou par des groupes ethniques armés et qui, donc, d'une manière ou d'une autre, se financent aussi d'un point de vue matériel de cette manière-là.
Alors, il y a quand même d'autres sources de financement.
Bien entendu. Donc, tous les financements ne sont pas non plus toujours très bien documenté. Et bon, il y a certes les contributions de la Birmanie en exil, des Birmans en exil qui parviennent à acheminer des ressources depuis la Thaïlande, depuis l'Inde, depuis d'autres pays d'Asie du Sud-Est et d'ailleurs, donc par des réseaux clandestins qui permettent d'acquérir auprès soit des groupes ethniques armés, soit de fournisseurs locaux. L'Asie du Sud-Est n'est pas un endroit où les armes légères en circulation sont difficiles à trouver, moins encore à acquérir et à financer. Il y a également aussi donc, ce gouvernement d'unité nationale, donc le gouvernement parallèle à l'ADN démocratique, réussit également à récolter donc, des ressources de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Une partie, on l'a très bien entendu dans votre remarquable reportage tout à l'heure, une partie servait donc, à faire fonctionner au quotidien ces PDF locaux, à leur donner donc, un peu d'entraînement et du matériel un petit peu plus poussé que ce dont peuvent disposer certains groupes ethniques armés. Donc, et il y a aussi, bon, il est vrai probablement qu'il y a quelques sources de financement probablement un peu moins déclarées dans les registres publics du gouvernement d'unité nationale, donc des contributions certainement de personnes diverses et variées. Peut-être, je n'oserais pas mentionner ce mot, parce que probablement donc, tout ceci concourt à un objectif qui est plus noble que le trafic en soi, mais oui, probablement.
Et effectivement, vous soulignez le fait que les groupes ethniques armés aident les jeunes résistants à se former. Alors, il y a en Birmanie, Bénédicte Braque de la Perrière, 135 ethnies officielles. Hein, des ethnies, il y en a énormément, avec des histoires différentes, une grande diversité. Jusqu'à présent, on peut dire que les divisions entre ethnies ont plutôt servi l'armée. Et là, il semblerait donc qu'il y ait des rapprochements contre l'armée.
C'est une histoire complexe et je ne pense pas que toutes les divisions ethniques aient servi l'armée, mais d'une manière générale, l'armée s'est construite sur cette situation ethnique, mettons.
Elle joue parfois une ethnie contre une autre en accordant à certaines des zones économiques.
Mais surtout, elle s'est construite dans la guerre contre ces minorités et c'est comme ça qu'elle est devenue un état dans l'état en Birmanie indéboulonnable ou peut-être, qui sait, un jour. Je vais revenir sur le financement parce qu'il y a effectivement des questions assez importantes là-dessus. Je pense que la diaspora est aussi très active et que le NUG a lancé toutes sortes d'opérations, notamment des ventes de biens de biens militaires, par exemple, à des personnalités qu'on connaît pas, mais et ils ont comme ça récolté des sommes assez importantes. Ils ont organisé des loteries en ligne. Enfin, il y a un activisme du NUG très important qui fait qu'ils ont quand même mobilisé de l'argent, mais c'est une mobilisation de la société birmane. Elle-même.
Oui, la société birmane qui compte sur ses propres forces. C'est entendait hein, le général qui disait bon, que le soutien international était vraiment inexistant. Oui. Timidité de la communauté internationale est mal perçue, évidemment, en Birmanie.
Elle est très mal perçue. C'est une vraie déception pour les générations jeunes. Les autres générations, la génération 88 avait déjà fait l'expérience de cette ignorance. C'est plus qu'une timidité, c'est une ignorance. La gestion du conflit birman a été laissée à l'ASEAN qui n'est pas en position d'agir vraiment. On avait beaucoup d'espoir sur la présidence de l'Indonésie, la présidence actuelle de l'ASEAN par l'Indonésie, mais on commence à avoir des doutes sur la possibilité que ça joue un rôle dans la possibilité de négocier avec Mie Aung Hlaing, avec les militaires, pour un apaisement au moins des conflits. Pour le moment, rien ne s'est passé de ce côté-là. Et du point de vue aussi de l'aide, eh ben il n'y a rien. Et manifestement, dans la résistance, il y a toujours une volonté de s'expliquer face à la communauté internationale, à justement regarder. Ça, c'est très intéressant de voir ce chef local qui se tient au courant de ce qui se passe en Ukraine. De fait, il est très probable que la situation en Birmanie dépend énormément de l'évolution de la situation en Ukraine, et leur regard vers l'Ukraine vient aussi de ce que ils voient comment l'Ukraine peut être soutenue, pas eux. C'est très clair dans le discours de ce chef, de ce leader, c'est une grosse déception, une grosse amertume pour la résistance birmane, effectivement. Cette ignorance.
Olivier Guillard, il y a quand même eu des sanctions internationales, notamment des sanctions nouvelles annoncées récemment par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, contre des membres de la junte, mais ça reste symbolique.
Oui, encore symbolique, et c'est un magnifique euphémisme. Là aussi, on est moins dans la déception que dans la surprise. Vous pensez bien que les quelques sanctions homéopathiques qui interdisent aux généraux birmans de se déplacer en Europe ou en Amérique du Nord, ou d'avoir des investissements quelconques dans des projets ou sur des comptes bancaires identifiés, ça n'a pas spécialement fait trembler dans leurs bottes les généraux, qui ont de toute façon mille façons de contourner ce genre de choses, et qui profitent aussi, c'est une des raisons pour lesquelles la communauté internationale bouge relativement peu, profite de deux partenaires diplomatiques, par ailleurs certainement fournisseurs aussi d'un certain type d'aide, notamment militaire pour un d'entre eux, que sont la République populaire de Chine et la Russie de M. Poutine. Donc deux partenaires au Conseil de sécurité des Nations Unies qui permettent à tout moment de diluer soit des textes ou des appels à sanctions ou alors des condamnations en faisant traîner la procédure ou en expurgeant des textes, ce qui aurait vraiment pu faire d'une certaine manière un petit peu mal, au moins symboliquement, donc aux militaires birmans qui aujourd'hui, 2 ans après leur retour au pouvoir, donc contre la volonté de la population, contre évidemment celle de la communauté internationale et des démocraties notamment, donc ne se sentent pas non plus totalement à l'avant-veille d'une fin de règne, et se sentent en capacité encore de tenir, et plus encore probablement d'espérer avec quelques possibilités de défaire cette résistance à la fois civile, militaire, professionnelle et autres. Donc nous sommes dans une évolution de crise qui, évidemment, selon la terminologie militaire, a une vue a tendance à pourrir un petit peu, à noyer les espoirs, on l'entendait bien dans les populations réfugiées de votre témoignage, qui se demandent un petit peu si elles vont rester dans ce dénuement total et dans cet oubli et dans cette inconsistance de l'aide internationale encore longtemps. Elles sont exténuées, éreintées, et les militaires parient dans une grande mesure sur cet éreintement et du regard extérieur qui est déjà proche de zéro et de la résilience des Birmans qui est pourtant plus à démontrer depuis le temps.
Alors, vous parliez du soutien de la Russie à l'armée birmane et de celui de la Chine. La Chine, elle joue quand même double jeu parce qu'elle finance aussi des rebelles.
Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette thématique. Je crains malheureusement que le temps nous manque. Il est vrai que la Chine vante un petit peu sa politique pragmatique sur le voisin birman en disant, en ne s'en cachant pas, elle discute avec tout le monde. Que le gouvernement est un ADN momentanément démocratique, ça n'a pas empêché la Chine, qui a invité Mme Aung San Suu Kyi et divers membres de la LND à plusieurs reprises à venir à Pékin et ailleurs. Lorsque la démocratie n'est plus au goût du jour à Rangoon, à Naypyidaw, ce sont les militaires sont extrêmement bien reçus aussi. On avait encore, il y a peu de temps, une délégation de la junte militaire qui séjournait en République populaire de Chine. Donc la Chine discute avec tout le monde, se propose comme médiateur du fait qu'elle peut discuter à la fois avec les militaires, avec le gouvernement d'unité nationale, avec certains groupes ethniques armés, certainement quelques mouvements PDF proches des zones frontalières de la Chine. Donc elle a des fers au feu, elle a des investissements qui sont, il est vrai, colossaux, donc intégrés dans une grande mesure à son ambitieux projet de nouvelle route de la soie, qui est intégré dans le puzzle dans lequel la Birmanie a une place importante. Donc elle discute, elle se propose, elle propose ses bons offices, et de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ainsi qu'elle le dit, quelle que soit la couleur du gouvernement, quelle que soit la volonté populaire, elle a des intérêts de tout temps dans ce pays, certainement encore davantage demain, et elle est prête demain, si la démocratie, ce que l'on peut souhaiter, finit par prévaloir, donc être la première à accueillir Mme Aung San Suu Kyi si elle sort de prison, et à encourager la tenue d'élections normales, dans un cadre électoral et un cadre électoral normal. La Chine a effectivement une politique un petit peu compliquée à comprendre depuis l'Occident.
Alors ces élections, Bénédicte Braque de la Perrière, elles semblent, la perspective de ces élections semble s'éloigner pour l'instant. Les militaires disent qu'ils organiseront le scrutin quand la situation sera stable. Ça risque de ne pas se passer tout de suite.
Oui, effectivement, on l'a très bien entendu aussi dans ce reportage. L'objectif des PDF, c'est d'empêcher les élections de se tenir. Ils ont déjà réussi à les faire repousser pour on ne sait quelle échéance. Pour le moment, elles devaient se tenir en août, mais les premières opérations de constitution de liste ont donné lieu à des attaques des bureaux administratifs qui s'en occupaient, et à des troubles suffisamment importants pour qu'ils renoncent donc à, pour le moment, à les tenir et qu'ils repoussent.
C'est-à-dire qu'en plus, ils veulent organiser un recensement pour mettre à jour les listes électorales, oui. les militaires. Donc, c'est encore plus compliqué à organiser ces élections. Alors, je veux bien qu'on dise un petit mot quand même d'une autre forme de résistance, celle du mouvement de désobéissance civile. On entendait tout à l'heure une fonctionnaire. Donc, il y a quand même eu une énorme grève des fonctionnaires, alors qu'ils ne pouvaient pas durer éternellement. Mais quelles ont été ces conséquences? Quel est aujourd'hui l'état de l'administration birmane?
Oui, alors ce mouvement de désobéissance civile qu'on appelle CDM, il a émergé tout de suite après le coup d'État, dans le cadre donc d'une résistance pacifique aux militaires. Et ça a commencé parmi les hôpitaux, parmi le personnel de santé. Ça a pris immédiatement beaucoup d'ampleur, donc non seulement dans le système de santé, mais dans le système éducatif et dans toutes les administrations. Et ça a provoqué effectivement une énorme désorganisation des services principaux. On sait que les écoles ne fonctionnent qu'à peut-être 20% de ce que c'était avant le coup d'État. Les hôpitaux sont complètement désorganisés, et cela dans une période où ils ont vécu le Covid. Donc on peut imaginer les problèmes
que ça pose.
Donc la situation est extrêmement compliquée pour l'ensemble de la population birmane. Merci beaucoup Bénédicte Braque de la Perrière, merci Olivier Guillard. Birmanie, résistance au cœur de la jungle, le grand reportage de cette semaine était signé Carole Izou, réalisation Annie Brault avec Grégory Wallon à la technique. Merci à l'équipe de la documentation de Radio France et à Caroline Beneteau au web. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.